vous êtes prêts à souffrir. 8 étages sans ascenseur.
Allez.
Là, c'est combien? Troisième?
Ouais. Tu vois, la cadence, elle commence à... Je les monte jamais d'affilée. On est arrivé. Maman.
Bonjour.
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 Enchantée. Ça va, vous allez bien?
Ça va, merci. Vous,
ça
vous
va,
allez bien? Alhamdoulilah. Bonjour.
Vous voulez un café?
Volontiers.
Ah, ok. Est-ce que vous avez vu la vue qu'il y a du 8e étage?
Non.
Allez.
Attends, on va voir la vue.
Pour cette vue, je me dis, ça vaut le coup de souffrir 8 étages. Là-bas, tout au bout de la baie, c'est Alger Plage. Donc on voit vraiment toute la baie d'Alger Plage en passant par Al-Harrach et puis le port d'Alger, là on le voit très bien. Et de l'autre côté, on voit plus côté Bebloued et tu vois. Donc on a vraiment toute la baie d'ici. Parfois, tu vois, j'ai passé une mauvaise journée, je suis déprimée. J'arrive, j'ouvre la fenêtre, je sors, je me sens tout de suite mieux. C'est vraiment magique. Je suis chanceuse. On retourne.
Sauce algérienne.
Café ou café au lait?
Café noir pour moi.
Café noir. Toi, tu l'aimes allonger le café, je sais pas s'il est bon pour toi. Célia, 29 ans, Alger. Célia, 20 ans, Dzaïr. Alors, on est chez mamie, au Télémli, Alger Centre. Et donc, je vis avec mamie. Ma grand-mère, elle m'a raconté beaucoup d'histoires. Elle a tout vécu. Quand elle te raconte, parfois elle rit, parfois c'est des horreurs. Parfois, c'est des trucs drôles, parfois, c'est... Ça vient toujours très spontanément dans nos discussions. Par exemple, on regarde la télé, il y a un film de guerre qui passe, il y en a beaucoup, tu le sais. Et, elle voit une image, me dit « Ah oui, c'était comme ça, et voilà. » Et là, elle commence, tu vois, à me raconter. C'est toujours de manière très, très spontanée. Et elle te parle de la guerre et puis elle te parle des courgettes qu'elle a plantées dans le jardin. Tu vois, c'est très dans un air avec beaucoup de légèreté. Parfois, elle raconte des trucs avec beaucoup de légèreté. Je suis là, mais mamie, quand même, t'as vécu toutes ces horreurs et là, t'es là à raconter ça, pépère, avec cette force incroyable d'esprit. Elle a une personnalité très forte. Ouais.
En Algérie, comme dans la famille de Célia, on a souvent grandi dans la même maison que quelqu'un qui a vécu la guerre d'indépendance, que l'on appelle en France la guerre d'Algérie, qui commence en 1954 et se termine en 1962. Aujourd'hui, la guerre est encore présente dans le quotidien des Algériens et structure notre façon de voir le monde. Pour moi, l'Algérie, c'est comme le millefeuille qu'on mange ici à 4 heures avec le café. Des couches d'histoire et d'expériences personnelles mêlées à de grandes décisions politiques qui explique les choix et la condition des gens, nous, aujourd'hui. Moi, c'est Laïla. Je suis franco-algérienne, comme on dit en France, ou binationale, comme on dit en Algérie. Je suis née et j'ai grandi à Grenoble. Et il y a 11 ans, j'ai décidé de vivre à Alger. J'y travaille comme journaliste. Et je dois dire que j'ai assez vite constaté le gouffre qu'il y avait entre ce qu'on connaît de l'Algérie en France et la réalité des couches du millefeuille. En Algérie, on connaît bien l'histoire de France, même après 62. On regarde les chaînes françaises encore aujourd'hui. On suit ces débats de société. En France, au contraire. C'est comme si des échos très lointains nous parvenaient de l'autre rive de la Méditerranée. On a une méconnaissance de ce qui se passe en Algérie. Et souvent au motif que l'Algérie a bien réclamé son indépendance, alors maintenant, qu'elle se débrouille. C'est pour répondre à cette lacune que je vous emmène à la découverte de l'histoire algérienne. Mais, comme pour la première saison, c'est la jeunesse qui nous la raconte. La jeunesse algérienne, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on lui a transmis de l'histoire de son pays depuis 62 ? Les parents, les grands-parents, l'école, de quel récit a-t-elle hérité ? Comment vit-elle ce passé encore aujourd'hui ? Et quel est son rapport intime à l'Algérie ? Et évidemment, à la France ? La première à m'en parler, c'est Célia. Elle a 29 ans, une chevelure bouclée et imposante à la mesure de son charisme. Je la retrouve dans le quartier du Telemli, à Alger, où elle vit avec sa grand-mère.
Ma grand-mère, elle m'a parlé de la torture. Moi, c'était la première fois qu'on m'avait parlé de ça. Moi, je voyais ça que dans les livres d'histoire. À l'école, on nous a beaucoup parlé de ça. Mais en aucun cas, j'aurais imaginé que c'était arrivé à ma grand-mère. Et plusieurs fois. Elle m'a dit, voilà, d'un coup, on est assis, tout va bien. Et Pomme, ils cassent les portes, ils viennent, ils ratissent tout, quoi. Ils cherchaient le Mujahideen. Et s'ils ne trouvent pas, bah, tu passes au questionnaire et à la torture, etc. La torture, c'était généralement, ça arrivait à chaque fois, vu qu'ils ne parlaient pas. Donc, elle a été torturée à maintes et maintes et maintes reprises, électrocutée. Elle m'a dit, j'ai jamais parlé. Jamais, ça pouvait durer des heures. Elle m'a dit jamais j'aurais parlé, j'aurais pu mourir et j'aurais rien dit. Ouais. Elle allait presque tous les jours apporter le dîner au Mujahideen, bien sûr en cachette. Elle m'a toujours dit que c'était naturel. Elle m'a dit c'est même pas une question que tu te poses, c'est naturel. Donc son père, ses oncles, les cousins de son père, c'était tous des Mujahideen. Et du coup, toute la famille autour, ils étaient là pour aider par n'importe quel moyen. Les femmes, les enfants, mais vraiment tout le monde, quoi. Elle m'a dit, j'ai même pas jamais ressenti un sentiment de peur. Elle m'a dit, je savais que c'était un devoir, je le faisais naturellement, sans aucun sentiment de peur. Elle était pourtant très jeune. Je sais pas, 14 ans, 13 ans, peut-être moins. Elle leur apportait à manger, tu vois, elle était assez active. Donc, elle en a vu des atrocités, tu vois. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment de la journée, la nuit, le jour, des Français qui venaient. Mettre le chaos, quoi.
Invité de pièce à conviction, le général Ossarès, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu sur ce plateau.
Oui.
J'aimerais précisément que vous me disiez aujourd'hui, avec mon recul, ce que vous regrettez d'avoir fait.
De m'être trouvé amené, sinon à pratiquer moi-même la torture, du moins à couvrir ceux de mes subordonnés qu'il a pratiqué.
Est-ce que c'était pour vous, dans les circonstances dans lesquelles vous étiez à Alger, la seule méthode possible pour atteindre l'objectif qu'on vous avait fixé ?
Dans certains cas, oui, mais les types étaient torturés parce que il avait été pris dans une organisation qui avait déjà participé à des actions violentes par bombe.
Pas tous. Vous parlez de suspects qui sont des suspects par dénonciation,
non,
qui sont des gens comme ça.
Les suspects, vraiment, nous avions suffisamment
de l'intuition.
De flair d'intuition pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon.
Donc vous avez décidé du sort des gens sur de l'intuition.
Oui, sur une intuition.
Sur une intuition, vous avez décidé de la vie ou de la mort de quelqu'un.
Oui.
Ma grand-mère, elle a combattu toute sa vie, elle a souffert, pour la libérer ce pays. Tu ne peux qu'aimer la liberté et te battre pour que tous les oppressés du monde aient cette liberté-là et la gagnent un jour. Je crois que ça, c'est... personne ne me l'enlèvera. C'est impossible. Anticolonialiste jusqu'au bout des ongles et des cheveux. Je crois que je tiens ça d'elle, ça c'est sûr. Elle me l'a transmis depuis toujours. Elle a vraiment un tempérament de guerrière, quoi. Tu le sens. Elle a peur de rien, de personne. Et elle n'arrête pas de me dire, quand quelque chose la révolte comme ça, dans la rue, ou elle voit un truc à la télé, elle me dit, si je pouvais, j'irais leur crier à la gueule. Je leur dirais ça et ça et ça. Moi, personne ne me fait peur, je te jure. Elle me tue. Elle me dit, moi, si je savais écrire, j'aurais écrit des articles, j'aurais écrit des livres pour tout dénoncer. J'aurais aimé tout dénoncer. Ça m'étouffe que j'arrive pas à le faire savoir au monde, tout ce qui se passe par rapport à la guerre aussi, tout ce qui s'est passé et tout. Ce qui est bizarre, moi, dans ma famille, c'est qu'on parle pas beaucoup de choses sérieuses. Quand j'étais petite, si j'essayais de m'intéresser à un truc, on me disait « Ah non, non, ça c'est pas pour toi, c'est pour les grands, etc. » Du coup, la seule version que j'avais, c'était celle de l'école. Et c'est pour ça que bien plus tard, quand j'ai appris que ma grand-mère avait vécu tout ça, j'étais choquée. Pendant tout ce temps, je ne savais pas que les histoires qu'on me racontait à l'école étaient arrivées réellement au sein de ma famille et à ma grand-mère. On m'a jamais rien raconté à la maison. J'avais que la version de l'école. Il y a beaucoup d'albums ici. Attends, je vais les chercher, ils sont juste là. Ah là, ils sont là. Il y en a beaucoup. Tiens, un pour toi, un pour moi. Attends, je vais te montrer ma grand-mère. Elle est là. C'était durant la guerre. Là, on peut voir ma grand-mère avec plein de petits-enfants, mais j'arrive pas à les reconnaître. Et là, c'est dans une vieille maison qu'on appelle Sazqa. Ça s'appelle Taharat, au fait. Il y a plein de petites maisons en pierre ou en terre et où toutes les familles vivent.
Il y a quand même beaucoup de photos où on voit un peu ta grand-mère danser, quoi.
Ah, plus tard, oui. Elle dansait beaucoup, elle a réagi peut-être autrement, elle s'est dit on a assez souffert. Et l'essentiel c'est que ce soit fini et que maintenant la vie commence, tu vois, en quelque sorte. C'est là que la vie a commencé. C'est une personne super joyeuse. Moi je me souviens quand j'étais petite, elle me chantait une berceuse, elle me la chantait très souvent, c'était Sundo. Elle est très très intime cette chanson parce que c'est au moment de dormir qu'on la chante en chuchotant et elle est remplie de douceur. Cette chanson c'est un gros câlin qui t'enveloppe, tu vois. C'est la douceur de ce moment-là d'intimité avec cette mamie ou cette maman. C'est magique, dès qu'elle la chante je m'endors comme un sac, c'est incroyable. Sundo, Sundo. هاكنا نتشارى فوقال هاكنا نتشارى فوقال السندو السندو افكار دو ذي ذا من لال هاكنا نتشارى فوقال ندوغ ندوغ ايغي كرت خوارش سبوذي اكنت نتمني ندوغ ندوغ ايغي كرت خوارش سبوذي اكنت نتمني Cette chanson, c'est direct. Elle me fait directement penser à mon enfance et toutes les enfances que j'ai vues ensuite. Tous les enfants que j'ai vus ensuite, ils ont écouté cette chanson pour dormir et voilà, c'est beaucoup de douceur. Ouais. Son grand-père, je sais qu'il est allé à l'école, par contre, contrairement à mon grand-père. Donc il sait lire et écrire et français arabe. Et je suis sûre qu'il est là sur la photo, mais j'arrive pas à le trouver. C'est une photo de classe. Et là, on peut voir sur le mur derrière, c'est écrit Tixirt 52, 1952. Et là, je peux voir mon grand-père. Il est là. Il doit avoir 10 ans. 9. Non, je dirais 8, 9 ans plutôt. On voit vraiment l'horreur dans les yeux. Ils ont l'air d'avoir peur. Ils ont les yeux pleins de terreur. C'est la tristesse sur les visages des enfants. Et il n'y a aucun sourire. J'ai beau chercher un sourire, j'arrive pas à en trouver. Ils ont été privés de tout. On dirait qu'on leur a retiré l'âme. C'est pas un enfant, on n'est pas censé vivre ça, voir ça. Qu'on lui retire tout, quoi. Même son sourire, même les choses les plus naturelles. C'est ça la colonisation, en fait. C'est déshumanisant. C'est ça qui me met hors de moi.
Estimez-vous que la présence française n'a pas transformé le pays? Estimez-vous que la présence française n'a pas amené un progrès? Le fait qu'une nation d'Europe pénètre tout à coup dans un pays d'Afrique n'a pas amené aussi une transformation économique?
Je vous dirais franchement que l'œuvre française en Algérie a transformé le pays. Mais elle l'a transformé à la manière d'un propriétaire qui s'empare de la maison du voisin et qui l'aménage pour ses propres enfants. Et au goût de ses enfants, sans se préoccuper de ce que deviendraient les enfants du voisin. Et bien entendu, l'élément autochtone a profité des routes, a profité de la transformation, mais cette transformation a été faite au profit du colon, et uniquement au profit du colon. Et ça, on a tendance à l'oublier en France.
C'est comme une histoire qui a été greffée à une autre et que tu peux plus les... Tu peux pas te détacher l'un de l'autre. C'est aussi toute une histoire qui est entre deux pays. C'est un lien d'amour et de haine, tu vois, un peu. Quand tu dis Algérie, tu penses à colonisation, France, etc. Et maintenant, à voir le nombre d'Algériens qu'il y a en France, tu te dis... Beaucoup de personnes me disent, je leur dis pourquoi vous allez en France, ils me disent je me sens chez moi. Tu vois, c'est dingue. C'est comme si aller en France, c'était même pas se sentir dépaysé. Tu vois, la plus grosse moitié de ma famille est en France. Ils ont leur vie là-bas, ça y est. Ils ont même plus leur repère ici, tu vois. D'ailleurs, même mon grand-père, il m'a toujours encouragée à partir et tout. Mais il y avait toujours un truc qui me retenait. Généralement, c'était mes parents. J'ai pas envie de laisser mes parents. La question, peut-être que je me la pose tous les jours, sans exagérer, depuis des années, depuis que je peux du moins partir, depuis que je suis dans la fac. C'est là que j'ai commencé à me dire que je peux partir. Et même mes parents me disent, maintenant, ça a été grand, tu peux partir. Mais j'y pense et je sais que je le ferai un jour. Peut-être pas tout de suite. Mais là, j'essaye un peu de préparer le terrain pour pouvoir partir dans de bonnes conditions et juste pas partir pour partir, tu vois. Parce que maintenant, j'ai fini mes études et j'ai plus la force d'étudier, contrairement à il y a quelques années. Donc maintenant, ça va plus être professionnel qu'autre chose. Et j'essaye de trouver le moyen de le faire. Déjà, financièrement, c'est pas évident. Il y a aussi le gros problème, c'est pas que financier, le plus gros problème, c'est le visa. Toutes les procédures qui vont avec, c'est plus ça qu'autre chose. Tu te sens un peu rejeté, ça, on te met mille et une barrières juste pour que tu te dises non, je peux pas y arriver, tu abandonnes. Moi, c'est ça pour moi, c'est le parcours du combattant. Juste pour le dépôt, il te faut une tonne de papier. Remplir un formulaire qui a 500 000 cases à remplir et à cocher et ça n'en finit jamais. Et tu comprends pas, au fait. Tu comprends pas, c'est un questionnaire de toute ta vie dans un formulaire. J'ai eu 3 refus de visa récemment. Et là, ça y est, je suis découragée. Je leur dis, je ne veux plus essayer, que ce soit touristique ou pas, ça y est, j'en peux plus. J'en ai marre. Si j'ai envie de voyager, je vais au Liban, allez. Par exemple, je vais en Tunisie, je vais au Maroc, je vais me changer les idées. Mais la France, c'est limite mission impossible, quoi. Même quand je lis les raisons pour lesquelles on m'a refusé, je trouve que ça n'a pas de sens. 3 refus de visa, alors que j'avais des raisons d'être là. Ouais, tout ça, c'est décourageant. Et je le ferai pas de sitôt, quoi. Mais il y a toujours ce déchirement de « je vais mal ici, j'ai envie de partir, et en même temps, si je pars, je perds beaucoup de choses ici ». Et c'est ce dilemme-là auquel j'arrive toujours pas à trouver de réponse, d'ailleurs, hein, qui est toujours en moi, tout le temps.
Le dilemme dont me parle Célia, c'est le dilemme de beaucoup de jeunes Algériens. Partir ou rester ? L'histoire avec la France est douloureuse, violente, mais pour autant, c'est un pays dont ils sont proches. Ils y ont de la famille, ils parlent la langue. Et ce n'est pas parce qu'on a envie de quitter le pays qu'on ne revendique pas fièrement son héritage.
Ma grand-mère, elle a combattu toute sa vie, elle a souffert pour libérer ce pays. Je crois que ça, c'est... personne ne me l'enlèvera. Anticolonialiste jusqu'au bout des ongles et des cheveux. Ouais.
En 1962, l'Algérie arrache son indépendance à l'une des armées les plus puissantes du monde. Avec les États-Unis, Haïti et le Vietnam, l'Algérie est un des premiers pays à vaincre le colonisateur, dans un combat pourtant inégal. Depuis, l'Algérie est drapée d'un immense prestige révolutionnaire. Mais, revers de la médaille, depuis 1962, la guerre de libération est aussi devenue la référence utile à qui souhaite asseoir son pouvoir. On fait taire toutes les critiques au nom de la lutte contre le colonialisme. Depuis l'indépendance, la jeune nation a une histoire déjà bien riche et complexe. Entre 1962 et aujourd'hui, de grandes et belles utopies ont précédé d'intenses périodes de violence politique. Cette histoire, c'est Célia, Hassan, Dounia, Imen, Zohor, Kadi, Mustapha, Wafi, Zulikha et Anaïs qui vont vous la raconter. Car si l'Algérie est une jeune nation, c'est aussi et surtout une nation jeune. Plus de la moitié de sa population a moins de 35 ans. C'est donc à cette génération, la nôtre, de tirer les leçons de l'histoire et d'inventer l'avenir.
C'est des histoires familiales complexes et le pays, enfin l'Algérie est un pays complexe.
Je suis né en Algérie, j'ai pas le choix.
C'est une terre sur laquelle a coulé beaucoup de sang, c'est une terre où il n'y a pas eu un moment de répit.
Le trauma colonial, le trauma des années de la décennie noire.
Il y a quand même une thérapie nationale qui doit être faite à un moment ou à un autre et c'est pas le cas.
On a besoin de savoir qui on est. On a besoin de savoir d'où on est. Apprendre, on fera ce qu'on veut.
Nous, en tant que jeunes, on veut faire autre chose. On veut construire cette histoire-là. Construire cette histoire-là, ça passe aussi par la connaître.
Il y a eu cette effervescence de liberté, d'espoir, de vivre enfin libre et de construire une Algérie meilleure.
En fait, je pense que l'Algérie est une... Elle aime nous faire souffrir. Mais je suis algérien et je serai toujours algérien.
Le pays est le nôtre et on va faire ce qu'on veut. Et on va faire ce qu'on veut.
On vous emmène à la rencontre des jeunesses algériennes qui, par la force des choses, se trouvent sur les deux rives, en Algérie comme en France. Paul, de la première saison, part à leur rencontre en France, tandis qu'Amel, journaliste algérienne, et moi-même, allons leur donner la parole à Béjaïa, Oran et Alger. Dans cette saison 2, 10 jeunes Algériens et Algériennes racontent et se racontent.
sauce algérienne.